Assouplissez votre cerveau et transformez vos échecs en grandes réussites. Maintenant que vous avez abordé différemment ce que l'on vous a appris, souvent malgré vous, sur l'échec, le bonheur ou la réussite, il est temps d'assouplir encore davantage votre cerveau afin de le faire gagner en flexibilité. Rentrons dans le concret et voyons comment vous allez pouvoir commencer à changer votre quotidien personnel et professionnel. Passe ton bac d'abord. Note. À l'attention de celles et ceux qui passent leur bac. L'histoire que vous écoutez m'est personnelle, mais elle ne constitue pas un modèle à suivre. À dire vrai, j'ai traîné ce fardeau comme une certaine honte durant des années, ayant peur que des portes se ferment. Si c'était à refaire, je m'organiserais autrement pour avoir mon bac du premier coup et faire tout le reste à l'identique. Pourquoi ne gagner que sur un seul tableau si on peut décrocher toutes les victoires utiles? L'histoire de mon bac est sûrement l'exemple le plus marquant de ce livre audio, le plus notable, à égalité avec ma première société. Pour tirer un sens de mon raisonnement, il faut que je vous emmène quelques années en arrière, à une époque où vivre à La Rochelle signifiait avoir le soleil, la mer et l'amitié à quelques coups de pédale d'un vieux vélo. Nous sommes le matin. Le soleil est déjà levé et je pars de chez moi pour aller au lycée. Mon bus passe à 7h05, il est pourtant déjà 7h30 passé, et je marche tranquillement dans la direction opposée à l'arrêt de bus. Je n'ai pas à me presser, car je ne serai pas en retard. J'ai pris l'habitude de faire le trajet en stop. N'y voyez pas de la paresse, mais simplement de l'optimisation. J'ai pu calculer et constater que je mettais seulement 15 à 20 minutes à arriver au lycée en autostop, contre une heure en bus. Je préférais donc profiter un peu plus de mon oreiller et j'ai commencé à nouer des liens avec des personnes qui me prennent régulièrement dans leur voiture. L'une d'elles, Mireille, m'a même avoué qu'elle était déçue quand elle ne me voyait pas sur sa route. Je me dirige vers le lycée, je suis en terminale et le bac ne va pas tarder à frapper à la porte des impératifs. Je n'ai pas vraiment d'angoisse à le passer, mais je m'en passerai volontiers. Je n'ai pas le désir de continuer dans le système scolaire, je passe un bac par défaut et j'ai découvert il y a déjà quelques années le monde du travail qui m'épanouit et m'enrichit beaucoup plus. Ma seule angoisse est de le rater, vis-à-vis de ma mère qui y tient énormément. De mon point de vue, cette réussite importe plus pour mon ego que pour mon futur. Car avoir mon bac ou pas m'est complètement égal. Ma vie durant cette année de terminale se partage en quelques axes tous aussi importants les uns que les autres. Ma vie sociale, tout d'abord, relativement nouvelle pour moi depuis que j'ai découvert que je pouvais être drôle et que la fête faisait tomber quelques barrières. Ma vie artistique ensuite. Notre groupe de musique marche plutôt pas mal et nous enchaînons les répétitions et quelques concerts. Ma vie active, en plein essor. J'y apprends énormément de choses sociales, humaines, logiques, c'est passionnant. Et enfin ma vie personnelle. Celle où je m'abreuve constamment de découvertes, de lectures, d'expériences, de réflexions. Tout m'intéresse et les premières connexions rapides me donnent l'impression de pouvoir comprendre tout ce qui pourrait chatouiller ma curiosité. Ah oui, j'en oublie un. Ma vie scolaire. Je vous promets que j'ai pas fait exprès. C'est la démonstration de l'intérêt que je porte au système scolaire cette année-là. À vrai dire, les études pour moi sont un problème depuis le collège. Je supporte assez mal les horaires, alors que je me donne énormément quand j'ai la sensation d'être libre. La hiérarchie m'irrite dès qu'elle devient injuste. Je n'aurai finalement que très peu de donneurs d'ordre dans ma vie. Et je déteste perdre mon temps d'apprentissage. J'ai fait le calcul en seconde, sur 8 heures de cours, j'apprenais en moyenne l'équivalent de 3h30. Comme toujours, ceux qui m'intéressent me passionnent, et ceux qui ne m'intéressent pas a une fâcheuse tendance à ne pas exister dans ma réalité, jusqu'au jour où je suis prêt à m'y intéresser. Mon cerveau a l'air d'utiliser ce système pour que je survive à cette pensée en arborescence en perpétuelle activité. Je vous promets que ce n'est pas toujours simple d'avoir plein d'idées et de schémas possibles qui se présentent d'eux-mêmes en permanence, avec une envie de creuser dedans pour voir jusqu'où les racines peuvent aller. N'y voyez pas d'orgueil ou d'arrogance, car je vous assure que la plupart de ces idées et de ces réflexions n'ont aucun intérêt. Il est facile, a posteriori, de vous livrer celles qui ont du sens. mais combien de milliers sont venus m'encombrer la tête inutilement par le passé et encore aujourd'hui. J'ai d'ailleurs dû construire des murs dans mon esprit, de véritables barricades pour dompter un peu cet imbroglio. Mais cela fera partie d'un autre livre, un jour peut-être. Je suis donc depuis quelques années en train de fournir les efforts nécessaires pour avoir une scolarité normale, raisonnable, avec des notes très hautes dans les matières qui me stimulent et où le professeur me stimule, et des notes catastrophiques dans les matières qui ne résonnent pas en moi. Délégué de classe, je suis parfois amusé de voir les professeurs décrire des portraits si différents de moi entre eux. J'ai l'impression qu'ils me regardent ensuite comme si un schizophrène s'était glissé dans leur conseil de classe. Je prends toujours la parole et j'utilise mes formules magiques pour rassurer tout le monde, non pas sur moi, mais sur eux. J'ai toujours eu le talent secondaire de savoir comment rassurer les gens. Je crois justement que ça vient de mon énergie neutre. Une fois libéré de leur angoisse de « suis-je un mauvais professeur ?», ils me laissent tranquille et passent à l'élève suivant. Bref, les études sont pour moi une formalité obligatoire et le bac semble être la libération. Je viens d'arriver au lycée pour la première épreuve, le trajet en voiture s'est bien passé comme toujours et je vais pouvoir commencer. Il s'agit de mathématiques appliquées avec un gros coefficient. L'épreuve dure 4 heures et j'ai calculé qu'un 14 sur 20 suffirait à combler la mécanique appliquée où calculer le point fondamental de statique d'un pont m'a toujours laissé tout aussi statique. Je n'ai pas révisé pour une raison très simple. Quel intérêt de fournir des efforts violents mais non productifs une semaine avant, alors que je peux me mettre dans de bonnes conditions mentales pour ne pas avoir de stress et ne pas produire un excès de cortisol dans mon sang. En clair, j'ai passé une semaine en toile de tente sur l'île de Ré à faire de la guitare avec mes amis Babou, Baptiste et compagnie. L'épreuve commence. Je fais ce que j'ai toujours fait. Ne pas écrire de brouillon et avancer. J'avance, j'écris, je calcule, je saute les difficultés pour ne pas perdre de temps sur ce que je ne maîtrise pas et réaliser au maximum ce que je maîtrise. Ma montre sonne. Je coupe le son immédiatement et rebouche mon stylo. La première heure vient de s'écouler, l'heure obligatoire. Je peux maintenant, si je le souhaite, partir de la salle. Et c'est exactement ce que je compte faire car figurez-vous que je travaille en tant que serveur pour le service de midi en centre-ville. Je ne compte pas être en retard, mon job d'été en dépend. Les journées de cette semaine se sont enchaînées ainsi, entre épreuve du bac, travail au restaurant, mais aussi travail sur les marchés où je vendais des nappes en polyester, une nouveauté à l'époque. Un rapide calcul me permettait d'estimer comment avoir la moyenne magique qui permet d'obtenir le diplôme qui trônerait fièrement chez moi, un savant dosage des coefficients des épreuves versus mes compétences. Et bien sûr, tout cela en restant si possible uniquement durant l'heure obligatoire. Le premier grain de sable de cette fabuleuse machine à obtenir mon bac en fournissant le minimum d'efforts fut en physique appliquée. Le coefficient de 6 m'oblige à rester au moins 2 heures pour assurer quelques points. Je ne connais pas énormément de formules et je vais devoir passer par des raisonnements longs pour trouver les résultats. En arrivant, je suis épuisé par ma semaine. C'est pour cela que je croise mes bras, que je rabats ma capuche de sweat sur ma tête et que je commence à fermer les yeux 5 minutes pour faire remonter un peu la jauge d'énergie. J'ouvre les yeux. 2 heures se sont écoulées. Pourquoi diable personne ne m'a réveillé ? Je suis attendu sur un marché pour déballer mes nappes et si je ne suis pas à l'heure, les meilleures places seront prises et ma journée de vente sera fichue. Je gratte rapidement tout ce que je peux en quelques minutes et je me lève pour remettre ma feuille et partir. Toute ma vie, je me souviendrai de Monsieur Boots, notre CPE de l'époque. J'avais de bonnes relations avec lui et sous ses airs très autoritaires, que j'ai toujours attribué au personnage qu'il jouait, il aimait assurément son métier et les élèves. Monsieur Boots me regarde passer, je dépose ma feuille qui met de longues secondes à tomber sur le bureau pour former le point de départ d'une pile qui ne grandira que dans 2 heures et je tourne les talons pour partir. Dans mon dos, j'entends à voix basse une phrase ferme, sans animosité, de Monsieur Boots. « Olicard, vous êtes un cas désespéré. » Au vu de mon emplacement dans le gymnase où nous passions l'épreuve, il avait dû me voir dormir 2 heures, m'affairer 15 minutes, puis partir. Il était là aussi les jours précédents lorsque je partais au bout d'une heure. qu'aurait-il pu penser d'autre ? Téléportons-nous quelques semaines plus tard, au mois de juillet. Je suis débordé par le travail de vente des nappes. Je déballe le matin sur les marchés, en étant le premier arrivé, l'après-midi dans les campings qui veulent bien m'accueillir et parfois le soir sur les marchés de nuit. Je vis en toile de tente depuis quelques semaines pour éviter de payer un loyer et le pont de l'île de Ré, puisque je fais mes meilleurs chiffres là-bas et sur le marché de Rochefort à l'occasion. Un copain de cours, que je connais assez peu, doit m'appeler pour me donner mes résultats du bac. C'est lui. Il appelle. Pierrick ne m'a appelé qu'une seule fois dans ma vie, pour dire que j'étais recalé. Avec 9,83 sur 20 de moyenne, j'étais admissible au rattrapage. Il faut savoir qu'il existe une règle de souplesse qui permet aux élèves méritants, avec de bons dossiers, d'avoir leur bac même s'il leur manque quelques dixièmes de points. Mais lorsque je vous parlais des matières qui n'existaient pas vraiment pour moi, elles n'existaient pas au point que j'y allais très peu. Le cas de la mécanique appliquée est révélateur. Comprenez d'abord que je n'ai jamais perturbé la classe. Je faisais des choses de mon côté et même si je ne suivais pas correctement le cours, je ne le ralentissais pas non plus. Un jour où j'essayais de comprendre ce que disait le professeur, j'avais levé la main pour une notion qui, a priori, n'avait pas été saisie par un bon nombre d'entre nous. Sa réponse était tombée comme une gifle. « Oh, c'est marrant, Olicard fait semblant de s'intéresser aujourd'hui !» J'avais fait bonne figure, puis je lui avais reposé la question. Deuxième gifle. « Et il continue en plus, c'est rigolo. Comme vous faites semblant de vous intéresser, je vais faire semblant d'avoir répondu. » Et il continua le cours. J'avais réitéré ma question calmement, me faisant le porte-parole de ceux qui n'ont pas compris par la même occasion. Lassé des gifles, il porta alors un coup sous la ceinture. « Au moins d'habitude, on ne vous entend pas. Et si mes réponses ne vous conviennent pas, vous pouvez partir de mon cours, ça ne changera pas grand-chose. » C'est là que j'ai pris mon sac, mon blouson, et c'est la dernière fois que j'ai assisté à l'un de ces cours. Je ne l'ai revu que pour les interrogations, je n'en ai jamais raté une, et pour les conseils de classe, puisque j'étais délégué. Mon dossier n'était donc pas celui de l'élève modèle, car toutes les lettres d'absence donnaient lieu, à chaque trimestre, à un avertissement d'assiduité. Ces avertissements sont de gros coups de tampon dans votre dossier qui font qu'un 9,83 au bac restera un 9,83. Pas de magie possible. Prochaine étape, le rattrapage. Le rattrapage consiste donc à repasser une épreuve, à l'oral, sur une matière que je peux choisir. Je suis très tenté par le fait de prendre les maths que je maîtrise plutôt bien. Il suffirait que j'augmente mon 14 à 15 pour avoir le sésame. Mais à force de discuter avec mon entourage, je me laisse convaincre de choisir la matière sur laquelle j'ai vraiment pêché. Vous avez deviné, la physique appliquée où j'ai eu 3 sur 20. Alors me direz-vous, d'un conseil avisé, qu'il suffit également d'un 4 ou d'un 5 pour réguler l'obtention du diplôme. Mais ça n'est pas si simple. Je ne connais pas les formules indispensables et je passe par des raisonnements complexes, utilisant les seules bases que je connais pour arriver à mes fins. À l'écrit, cela peut faire la farce, mais à l'oral, je vais rapidement me faire boxer le cerveau par l'examinateur. Cette dernière phrase fait à la fois office de projection et de prédiction. L'oral s'est très mal passé. Le second oral était en mécanique appliquée et je n'ai pas monté ma note non plus, qui était de 9 sur 20. Pas si mal pour un élève qui ne venait qu'aux interrogations. Il aurait fallu une matière où je n'avais pas à réviser avant. La philosophie était la matière idéale, mais j'avais eu 18 sur 20. Toujours en une heure et sans brouillon. Mais ce succès n'appartenait qu'à moi, puisque cette matière n'avait qu'un coefficient de 2 dans ma filière. C'est d'ailleurs pour moi le véritable problème des études générales. Ne pas pouvoir composer son agenda à la carte. J'étais passionné par le français, l'histoire, les sciences, la philosophie, la psychologie, l'économie. Je rêvais d'un programme sur mesure allant piocher dans les branches scientifiques, littéraires et économiques. Une chimère de savoir personnalisé. Au lieu de cela, le nouveau couperet est tombé avec peu de surprise. Refusé. Échec cuisant. Inapte. Stupide. Cancre. Paresseux. Décevant. Différent. Idiot. Honteux. Je suis maintenant dans ma toile de tente, je vends toujours mes nappes, et je suis obligé de faire le point. J'ai une lettre de ma mère dans les mains. Cette lettre amère contient toute la déception d'une mère envers son fils, avec, je cite, « J'ai toujours ton bac en travers de la gorge ». Mais est-ce que je devais ce diplôme à quelqu'un ? Il est évident que je n'allais pas travailler dans le secteur de l'électrotechnique. Et ce, même si je ne savais pas où et comment j'allais gagner ma vie. Cela n'avait pas d'importance puisque je n'ai jamais eu d'angoisse à ce sujet. J'ai toujours su que j'apprendrais au fur et à mesure que je devrais avancer. La non-obtention du bac remet-elle en cause tout le savoir accumulé depuis mon enfance ? Tous ces domaines explorés ? Toutes ces expériences où m'a emmené ma curiosité ? Tous ces livres avalés semaine après semaine ? A priori, oui. Ne pas avoir mon bac invalidait tout cela aux yeux de la société et de mes parents. J'étais au mieux un fainéant, au pire pas très intelligent. Dans tous les cas, j'étais décevant. Pour décevoir, il faut avoir une promesse non tenue, un engagement non honoré. L'obtention d'un diplôme est un engagement tacite pour ceux qui vous entourent, mais il ne prend jamais en compte la réalité du postulant à ce diplôme. Assis en tailleur dans ma toile de tente, je me suis demandé comment je me sentirais réellement si je ne me sentais pas coupable vis-à-vis de ma mère et quel regard je porterais sur mon futur. Je l'ai fait durant de longues heures, sincèrement et le plus objectivement possible. Voici le résultat. Je ne me serais pas senti mal. Au pire, un peu agacé de ne pas avoir la médaille. J'aurais la même confiance dans le futur et les mêmes objectifs d'autonomie et de liberté. Je me suis dit, je ne suis pas mon bac. Et c'était vrai. L'obtenir ne m'aurait pas rendu plus intelligent, plus fiable ou plus compétent. Si j'avais potassé 20 ou 30 heures de plus ma physique appliquée, je l'aurais eu, mais serais-je différent ? Serais-je meilleur dans au moins un seul domaine ? La réponse est non. Dans une pure logique, ne pas l'avoir ne m'enlevait rien si ce n'est le regard social que l'on pouvait poser sur moi. J'ai donc entrepris de prendre ma truelle mentale et de construire un mur autour de tout cela. J'y ai scellé la culpabilité envers ma mère, ma propre déception de l'avoir déçue de moi, la honte que je pouvais éprouver vis-à-vis de la société. J'y ai scellé toutes les émotions négatives, puisque la logique venait de me démontrer que le « avec ou sans diplôme » n'avait aucun impact sur qui j'étais et ce que je faisais. Deux choses étaient sûres pour moi ce jour-là. Je ne pourrais jamais exercer un emploi où l'on me demande d'avoir le bac et où l'on me demande de le présenter, je ne suis pas persuadé que ce soit souvent le cas. Et je devais tirer des conclusions de cette expérience. Mes conclusions furent les suivantes. Je vais les formuler au futur car c'est en ces termes que je les ai pensées. Je ne me forcerai plus jamais à suivre un chemin qui ne me convient pas. J'irai là où mon émotion est positive. Je trouverai toujours quelque chose à tirer de chaque expérience. Et si je ne trouve pas quoi, c'est que je n'aurais pas assez cherché. J'ai donc naturellement cherché ce que je pouvais retirer de toutes ces années de lycée que je n'ai pas clôturées par ce qu'il semble être la récompense traditionnelle. En voici la liste non exhaustive. J'ai appris comment me comporter socialement, aussi bien avec des personnes de mon âge qu'avec des personnes à haute responsabilité. J'ai fait partie des délégués européens. J'ai appris à m'organiser et à être multitâche en travaillant professionnellement durant mes années lycée, en tant que formateur BAFA, serveur, vendeur sur les marchés, etc. J'ai appris à trouver les informations qui m'intéressaient par moi-même et à m'auto-former. J'ai appris à structurer ma pensée et ma logique grâce aux mathématiques et à la philosophie, sans faire de distinguo entre les deux. J'ai appris à gérer ma vie sentimentale et à voir que, malgré le peu d'estime que je porte à mon physique, je peux plaire. J'ai appris avec mon groupe à parler en public, à créer des concerts, à composer des morceaux, à communiquer sur nos dates, à organiser cette association. J'ai appris à créer une petite entreprise temporaire, obligatoire pour la vente sur les marchés. J'ai appris à refuser la contrainte et la hiérarchie quand elles sont injustes. J'ai appris à gérer mon temps et ma procrastination en partie. J'ai appris tout ce qu'il y avait à savoir sur Internet et comment créer un site de A à Z en HTML seul. J'ai appris le codage informatique en deux langages, le basique et le C++, seul. J'ai appris à maîtriser mon énergie pour dormir peu et profiter de mon temps d'éveil. J'ai appris à lâcher prise socialement. J'ai appris beaucoup dans les sciences cognitives et le mentalisme, seul. J'ai beaucoup appris sur le monde et les êtres humains grâce à mes cours d'histoire, de géographie et de SVT. J'ai appris à faire rire et à maîtriser mon humour. Je pourrais continuer cette liste très longtemps. Je l'ai vraiment écrite à l'époque, mais je n'ai pas gardé cette feuille qui n'avait pas d'importance. La seule chose importante à comprendre, c'est qu'à la fin, je me sentais fier de ce que j'avais accompli. Tant de chemin parcouru. Le bac était une information aussi futile que ma carte de cantine. Je n'avais pas perdu mon temps au lycée. J'avais fait ce que j'avais à y faire dans ma propre expérience de vie. Mes années lycée étaient un succès et mon non-bac une certaine récompense.